toi qu'acteur, dès que tu te mets à réfléchir, à penser, à être dans ta tête, c'est mort en fait, faut être totalement dans le moment présent. Cet état finalement d'être dans le moment présent, ça demande un lâcher prise. Ça t'arrive, ça te fait peur, tu dis mais putain, mais pourquoi la chose la plus simple du monde, je sais plus la faire quoi. Et là je rentre sur scène et là mes yeux mais explosent. Dans ma tête je me dis juste je suis en train de perdre mes yeux, je suis en train de devenir aveugle machin. Je veux dire moi ça m'est arrivé, tu sais plus comment boire un verre d'eau quoi. Et tu sais comment on boit encore un verre d'eau le... J'ai l'air super chelou en boire mon verre d'eau quoi.
Bon, c'est quoi le plan là?
Commence la scène et là, bah, blanc, machin. Ok, c'est pas grave, coupé, on reprend. Et là, pareil. Et plus ça avance, plus on fait de prise, plus je me mets à me tendre, à paniquer, quoi, tout simplement. Moi, j'étais un enfant très, très anxieux, très timide. Ah, j'en souffrais énormément, énormément. C'était vraiment très, très dur. Il y a eu un drame, il y a eu une tragédie. Mon frère a perdu la vie dans un accident de voiture, mais là c'était plus qu'un séisme, c'était il y avait plus de sol quoi. Je me disais qu'une chose, c'était à quoi bon. Et surtout aussi, il y a une autre chose qui m'a beaucoup aidé, c'est que
en tout cas Neil, je suis vraiment content d'être avec toi.
C'est réciproque.
Comme je te disais. Merci. En off, le métier d'acteur, le monde du cinéma, pour moi c'est une vraie histoire d'amour. Donc je suis vraiment très content de découvrir un petit peu. Super. Ton parcours. Tiens, démarrons peut-être là dans la dernière série que t'as tournée. Si t'as une petite anecdote qui était cool pour toi, qui était fun, il s'est passé quoi de mémorable pour toi dans ton dernier tournage?
Ah bah c'est énormément de souvenirs. C'était un très long tournage. On a tourné sur un an. Forcément, il y a des liens très forts qui se créent, des amitiés. Juste avant de ce tournage, moi je voulais faire une pause quoi. J'étais en train de prendre des cours dans une école d'aviation qui s'appelle Ashton Fly, parce que j'ai toujours rêvé de piloter des avions. C'était un jour de grève. Et j'étais dans les bouchons et j'allais faire mon premier vol, quoi.
Solo ?
Solo, ouais.
T'es stressé ou pas ?
Je suis ultra stressé et je reçois un appel de Xavier Giannoli qui dit qu'il aimerait bien me rencontrer pour sa série. Et là, j'appelle l'aéroport, je dis écoute, je vais arriver en retard, machin, je vole. Et finalement, je suis pas allé à l'aéroport, je suis allé rencontrer Xavier Giannoli pour sa série.
En toi, là, de ce moment où tu fais le choix, tu te dis quoi en fait?
Et à ce moment, je sais pas ce qui est bien, ce qui est pas bien. Je me dis, cette formation, elle était hyper importante pour moi, quoi.
Et qu'est-ce qui t'a séduit dans ce qu'il t'a dit?
C'est un hasard en fait. J'avoue que c'est purement un hasard. Je pense que c'est s'il n'y avait pas eu ces bouchons-là, s'il n'y avait pas eu ces circonstances-là, je serais peut-être allé dans cet avion, quoi. Et j'aurais pas fait cette série. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses dans la vie parfois qui sont. Il y a des choses que tu détermines toi et d'autres choses qui sont déterminées par
la vie,
par
quoi.
L'extérieur, par la vie. Ouais.
Et donc tu vas à ce rendez-vous et le fait de ne pas aller faire ton vol, ça t'empêche d'avoir le diplôme ou la certification, je sais pas comment ça marche en tant que pilote.
Bah finalement le tournage a commencé très vite, très rapidement, et j'ai reporté à plus tard. Et puis je me suis rendu compte que c'était un tournage très long, que c'était un an de tournage, et finalement j'ai pas fait cette formation, mais je la ferai peut-être un jour.
Quand tu vas la refaire, tu vas devoir repartir de zéro ou pas?
Ouais, parce que la formation théorique est quand même, c'est quand même costaud quoi. Il y a beaucoup de maths. J'étais nul en maths à l'école. Ouais, c'est quand même beaucoup. C'est sérieux quoi quand même.
Et c'est intéressant, tiens, le fait que ça soit vraiment un peu un rêve, une passion. Du coup, les maths c'était plus facile quand même.
Ah, ça c'est certain. Ça c'est certain. Par exemple, moi j'étais assez nul à l'école. Je pense que À partir du moment où on aime faire quelque chose, c'est certain que c'est la meilleure entrée pour... c'est la plus grande force, en fait, pour apprendre, quoi. Tout devient beaucoup plus facile. Tu sais, c'est vraiment une question de perspective aussi, je crois. Par exemple, quand t'es acteur, tu dois apprendre beaucoup de textes, des longs textes, et c'est souvent... c'est laborieux, quoi. Surtout que c'est pas très, très passionnant, apprendre un texte. C'est vraiment de la pure mémoire. Et la mémoire, c'est comme un muscle, quoi. Plus tu la travailles, plus c'est facile d'apprendre. Sauf que comme quand on fait de la musculation, bah c'est de l'effort, quoi. Et c'est laborieux, c'est pas toujours marrant. Tu sais, je trouve on dit apprendre par cœur.
Ouais.
On dit apprendre par cœur. Et je pense que c'est important d'apprendre avec le cœur. Si on n'apprend pas avec le cœur, si on apprend
Ouais, juste de manière, enfin, il n'y a pas de sens, quoi.
On apprend mal, je crois. Je pense qu'on apprend beaucoup mieux quand on apprend avec le cœur.
Donc, et des moments où tu te sens vraiment libre, quoi, il n'y a pas
la
contrainte.
Ouais, exactement. C'est des moments où je me sens dans le moment présent, quoi. Je suis une nature plutôt contemplative aussi, mais c'est vrai que j'ai toujours fantasmé sur le fait de...
D'être pilote,
d'être dans les airs.
T'aimerais faire un rôle de pilote ?
Bah ouais. Après, je trouve que le rôle de. Un rôle, ça a à voir avec les sentiments, avec le. Un métier, c'est pas suffisant comme rôle. Je pense que tout peut être intéressant, en fait. Et tous les métiers peuvent être.
Passionnant. C'est le personnage plutôt.
C'est vraiment le personnage, c'est l'humain. Qu'est-ce qui se cache derrière l'uniforme, en fait ? Qu'est-ce qui se cache derrière cet uniforme de pilote ? Qu'est-ce qui se cache derrière un uniforme de militaire ou de policier ? On est toujours. Plus complexe que ton étiquette et ton rôle social, en fait.
Et le métier d'acteur, ça te vient d'où, en fait ? À quel moment t'as su « je veux être acteur » ?
Mon père était prof de théâtre, il est toujours, et il était comédien aussi de théâtre. Quand on a déménagé à Montréal, il jouait plus, mais il donnait des cours. Moi, j'étais un enfant très, très anxieux, très timide.
Moi aussi, je ne sais pas si tu sais d'ailleurs.
Ouais, je le sais parce que j'ai écouté tes podcasts et j'étais bègue aussi. J'étais bègue enfant, je pense que ça vient de là. Et je trouvais ça très dur, quoi. C'est comme si j'arrivais... Moi, je me disais, mais peut-être que je suis autiste ou je ne sais pas. J'ai l'impression que socialement, j'y arrivais pas. C'était comme du chinois pour moi, quoi. Vraiment comme une langue étrangère. Et
t'en souffrais ?
Ah, j'en souffrais énormément. C'était vraiment très, très dur. Et j'ai l'impression de ne pas avoir accès, quoi, au monde social. Et donc, mon grand frère prenait des cours avec mon père. Et à l'adolescence, moi, je faisais beaucoup de skate, quoi. J'étais vraiment dans ma bulle. J'avais des amis, mais je ne savais pas du tout ce que je voulais faire dans la vie. Puis même...
Tu te faisais remarquer, mais plus dans l'angle de je casse les codes, quoi.
Je me faisais remarquer dans le sens je suis vraiment l'enfant à problème. J'inquiétais, je crois, très fort mes parents, quoi. Ils disaient, mais Nice, qu'est-ce qu'il va devenir ? Ils me faisaient des grands discours. Mais au moins, j'avais l'impression de...
J'avais l'attention.
Donc...
Ouais. Et peut-être ce que tu dis, déjà, c'est assez beau et ouf d'en avoir conscience. Mais ce que tu décris, c'est un schéma assez courant dans la famille.
Ouais, ben, je n'en avais pas du tout conscience au moment. Hein. Je pense que là, maintenant, je suis plus vieux, j'ai du recul là-dessus, mais j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à m'en rendre compte. Après, si, je pense que sur le moment, j'avais conscience que j'avais une frustration, un besoin que je pouvais... Peut-être un besoin d'amour.
Oui, parce que si tes parents, ils donnent beaucoup d'attention sur ouais. « bravo à ton frère, super note », que les gens, parce qu'il est charismatique, bah, du coup, lui accordent de l'attention, naturellement, ouais. Dans tes perceptions, à ce moment-là, il y a une forme de déficit de « je suis pas assez intéressant ou important ». Donc,
l'image, moi, ce que je me faisais des acteurs, c'était soit les clowns qui faisaient marrer toute la classe.
Ouais, soit, c'est l'attention, quoi.
Des personnes très, très extraverties, alors que moi, j'étais tout le contraire. J'étais beaucoup dans ma bulle, très rêveur. J'observais beaucoup, j'écoutais. J'étais vraiment l'inverse de l'image, de la représentation qu'on peut se faire d'un histrion, d'un acteur, quoi. Donc moi, je disais, c'est vraiment mon frère, quoi. C'est vraiment mon frère, l'acteur. Et puis, Il y a eu un drame, il y a eu une tragédie. Mon frère a perdu la vie dans un accident de voiture. Comme moi, j'étais très proche de lui. J'avais 16 ans, il en avait 17.
Ouais, c'est un choc.
Ah bah, de toute façon, c'est un choc. Mais là, c'était plus qu'un séisme. C'était y avait plus de sol, quoi. Et le monde me paraissait totalement absurde, en fait. C'est comme s'il y avait plus de sens. Il y avait plus de sens du tout.
Rien de vivre, quoi.
Je ne disais qu'une chose, c'était à quoi bon. Il y avait que cette phrase là. À quoi bon, de toute façon, on peut à 17 ans, 18 ans, la vie peut te faucher. À quoi ça sert de créer des liens? À quoi ça sert de construire
des fétiches,
quoi que ce soit? Bah oui, c'est quelque chose de défaitiste et d'avoir une conscience de la mort. En fait, je pense que pour vivre, en fait, quelque part, la mort, il faut pouvoir l'oublier aussi. Sinon, pour être serein, pour être en paix, je ouais. crois. Sinon, si on pense tout à la finitude des choses, c'est très compliqué de pouvoir être dans le moment présent. Ce monde-là qui me paraissait à la fois inaccessible parce que par ma timidité et en même temps là devenu totalement absurde, quoi, mais terrifiant d'absurdité. Je me suis inscrit dans la troupe de théâtre de l'école pour essayer de toucher quelque chose qu'il avait touché lui, qu'il avait aimé lui, c'est-à-dire le théâtre.
C'était une manière de rester connecté avec ton frère ?
Exactement, c'était exactement ça. Simplement de continuer à le faire exister. Et finalement, le théâtre, par l'histoire, l'incarnation, être dans une histoire, ça crée du sens en fait. Ça crée plein de liens, ça crée un lien entre celui qui le joue, celui qui la raconte et la personne qui la regarde, qui l'entend. Shakespeare dit la vérité peut être éclairée que par le faux. Et moi, je trouve que c'est finalement par la bande, de manière indirecte, en jouant des personnages, que moi j'ai pu me révéler, que j'ai pu sortir plein de choses que j'avais en moi, et certaines choses même que j'ignorais, mais que je refoulais par timidité, par mon anxiété. Et finalement, ça a été un lieu, la scène, où je pouvais être enfin libre, quoi.
Ouais, tu peux t'autoriser à être des parties de toi que tu réprimais.
Exactement. Et j'étais en plus valorisé par ça. Parce qu'il y avait une sorte finalement de catharsis. Les gens pouvaient se projeter à travers moi. Donc ce lien-là, il était vraiment... c'était une révolution pour moi. Et puis surtout, j'étais dans un monde qui avait du sens. Et je me rappelle, j'ai joué deux pièces à l'école. Je jouais une adaptation d'Harold et Maude. Et je jouais le procès de Kafka. Et ce qui est dingue, c'est que le procès de Kafka, pourtant, c'est une pièce qui traite d'absurde. C'est un personnage qui cherche un sens, finalement, et on lui fait le procès, on lui dit t'es coupable de quelque chose, et il sait jamais de quoi il s'agit, finalement. Mais finalement, de le faire dans la représentation, de le faire sur scène, et bah, tout d'un coup...
Ça a un sens.
Ça avait un sens, et il y avait un chemin. Et le fait de pouvoir répéter un texte, de savoir où j'allais, c'est comme s'il y a un chemin qui est déjà tracé quelque part. Et puisqu'au moment où tu joues la pièce, tu l'oublies, tu es complètement concentré, complètement dans le moment présent, bah, tout d'un coup, ça crée un appui, quoi, comme un sol. Et j'ai trouvé ça... ouais, ça a été une révolution. Moi, je me suis dit, suite à ça, tout le temps passé en dehors d'une scène n'est qu'attente.
Non, j'adore aussi, là, dans ce que tu viens de dire, c'est que... Souvent, quand on n'est pas bien, on a tendance à se replier sur soi. Alors que dans ce que tu décris, c'est aller vers l'extérieur, bien provoquer sûr. Une expérience, ouais. créer un échange.
Ouais.
De tout ça,
ouais.
t'as pas la garantie que ça va créer quelque chose, mais il y a des chances que d'une conversation ou d'une lecture ou d'une sortie ou d'un voyage ou d'aller s'inscrire au théâtre, ça déclenche des trucs qui transforment
absolument.
Ta vie.
Puis quand je prenais des cours de théâtre aussi, il y a une philosophie de l'improvisation, presque une des premières règles de l'improvisation, c'est dire en oui.
Oui et ouais.
Oui et. Ouais. ouais. Et c'est vraiment génial ça, parce que moi qui étais quelqu'un d'extrêmement introverti, j'étais souvent animé par une... c'était souvent la peur, en fait, et qui me faisait répondre, qui est au... aux gens, mais aux propositions des autres, et j'étais toujours dans une sorte de repli, quoi. Et le fait de dire oui mais, et eh ben c'est peut-être la seule manière de vivre une aventure, quoi. Ça peut être dans tes relations intimes, ça peut être dans tes activités, ça peut être à tous les niveaux, quoi, de dire oui, et c'est-à-dire de prendre quelque chose de l'autre et puis d'ajouter,
construire
avec. Et ça m'a amené, alors parfois sur des plans super foireux, je me souviens.
Par exemple,
à mes tout débuts, moi j'avais pas du tout de contact dans ce milieu. C'était, alors faut savoir, au début, c'est un milieu très fermé, le milieu du cinéma.
C'est clair.
Et à Montréal, c'est vraiment un tout petit milieu. Puis d'ailleurs, à l'époque, je m'étais dit, bon, il faut quand même que je travaille. J'avais 18 ans, 19 ans. J'étais plongeur dans un resto. Et parce que je me disais, jamais je pourrais vivre du métier d'acteur, quoi. Ça me paraissait totalement inaccessible. Et j'étais plongeur et je me rappelle, le manager me dit, il me faisait tout un plan de carrière dans la restauration en me disant, alors si tu travailles bien, machin, dans 6 mois tu pourras devenir suiteur. Suiteur, je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est ceux qui amènent les couverts et les serviettes sur les tables. Et puis moi, j'ai
dans un an et demi, tu vas pouvoir.
Ah ouais, serveur dans un an et demi. Et
j'ai géré la salle dans 3 ans.
Ouais, genre dans 10 ans, j'étais gérant, mais genre c'était vraiment genre le gars disait genre jamais t'y arriveras, quoi. Genre, même suiteur, pas sûr. Et puis, je sais pas, tu vois, en plus, on te retourne tellement le cerveau dans les trucs, c'est que moi, je me disais, ah ouais, suiteur, putain, et puis je regardais les autres suiteurs, je me disais, putain, ils sont trop classe, quoi. Ouais. Aussi, il y a la chance d'avoir, pour ça, j'ai énormément de gratitude pour ma famille, je suis né dans une famille extraordinaire, et mes parents, à l'époque... parce que ça fait peur quand même, des enfants qui veulent devenir acteurs. C'est
ouais,
un milieu très très précaire, quoi. C'est l'inconnu. Il y a très très peu d'élus. C'est un métier qui te choisit plus que tu le choisis. Ils m'ont dit, écoute Nils, si tu veux être acteur, il faut que tu... Mais c'est une leçon presque générale, quoi, de la vie. Ils disent, faut que tu mettes tout dans le même panier, quoi. C'est-à-dire que tu peux pas être vouloir être suiteur et faire la plonge et être suiteur et en même temps à côté être acteur, tout ça. Ça, tu vois ça dans les films et tout ça, et peut-être que ça a réussi, quoi, mais il dit, il faut que si tu veux travailler dans le cinéma, peut-être que tu gagneras moins d'argent que comme plongeur, c'est déjà pas beaucoup, hein. mais
c'est possible de gagner moins dans le cinéma, parce que du coup c'est dur d'avoir des rôles payants.
Bah ouais, c'est clair. Et puis mais il faut que tu fasses du cinéma. Je dis ouais, mais comment faire? Il me dit bah t'appelles tous les directeurs de casting, t'appelles et tu fais de la figuration. J'appelle, ils me disent qu'est-ce que vous voulez, je vais être figurant. Et je me retrouve dans une sur un film. Il y a 30 figurants, mais ils font ça depuis 30 ans, quoi. Je veux dire, c'est des figurants, ils sont figurants professionnels, quoi. Ils essaient tous de se pousser pour être un peu plus devant la caméra, tu vois, ou... Moi, j'ai pas voulu faire du tout ce métier pour être connu ou quoi que ce soit. C'était comme je te racontais tout à l'heure, quoi. C'est que tout d'un coup, le monde avait un sens pour moi, au-delà de...
Oui, et là, ça n'avait pas, du coup, d'être
figure. Et là, pour moi, c'était... Je retournais dans un monde totalement absurde. Mais au moins, je faisais du cinéma, quoi, entre guillemets, quoi. J'ai quitté la plonge et j'ai plongé. Oh là là.
Quelle transition pourrie, quoi.
J'ai fait plusieurs choses, c'est-à-dire que je bossais dans une boîte de production, je faisais de la production de vidéoclips, de courts-métrages, où je gagnais pas une thune. J'étais dans le bain, quoi, et je me disais, c'est quand même un lieu où je peux rencontrer éventuellement des gens, des réalisateurs qui font des courts-métrages.
Et t'essayais de créer des liens?
Et ouais, parce que je produisais des clips, des courts-métrages, et du coup, je disais aux réalisateurs que je produisais, je faisais, ouais, mais tu sais, je suis aussi acteur, le truc, et puis...
Ça, c'est super intéressant. Comment tu... Parce que il y a le toi en mode je suis dans le personnage, qui là arrive à plus à s'émanciper. Il y a le toi qui est introverti. Moi, je vois par exemple qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre parce qu'ils me voient sur scène et ils me voient super à l'aise, etc. Donc, ils me voient extraverti. Je vois que je suis toujours au fond introverti. Je suis beaucoup plus à l'aise socialement qu'avant. Mais par exemple, tu vois là, par exemple, j'ai une invitation à une avant-première d'un film. Il y a un cocktail, tout ça. Et je me disais... je vois, Gad Elmaleh m'avait invité à son avant-première. Et en fait, cette ambiance où il y a 100 personnes, cocktail, les gens se connaissent... C'est pas un endroit, un environnement dans lequel je m'épanouis, ni j'excelle, parce qu'en fait, ça demande d'être très extraverti, de parler à plein de personnes.
Small talk et tout ça, parfois ça peut être hyper angoissant.
Et donc, du coup, toi, typiquement, comment, avec de l'introversion, c'est quoi ta manière de connecter?
Alors, moi, ça, c'est un truc que j'ai toujours eu, je crois, c'est que, et peut-être que tu te reconnaîtrais aussi là-dedans, c'est comme j'étais à la fois très introverti, il y avait quelque chose pour équilibrer ça, j'ai toujours eu quelque chose de très, très audacieux. À des moments particuliers, je pouvais ne pas avoir du tout peur, ou parce que j'avais peur, j'avais une force pour combattre cette peur-là. Ça pouvait être en skate, par exemple, où j'avais peur de sauter 15 marches, mais personne finalement voulait y aller. Et c'est moi qui me disais, allez, je m'en fous, j'y vais, je saute les 15 marches. Et puis je me pétais la jambe.
j'avais jamais réalisé et vu ça. Le fait que la plupart du temps, tu as cette forme de contrainte, de pression. Ouais. Du coup, ça te muscle à parfois la défoncer.
Exactement, exactement. Ouais, ouais.
Non, ça me parle, c'est comme ça que j'ai réussi à avoir une interview avec Richard Branson au final, ouais, en allant au culot.
Exactement.
Et je me reconnais pas d'ailleurs. Je me dis, des fois, je vois des trucs que j'ai fait dans ma vie. Là, quand j'y pense, ça me paraît pas accessible. Et en fait, c'est juste que dans le moment, je me suis dit, oh fuck, ça fait chier de pas oser.
Bah, au début, justement, quand tu dis, de toute façon, il se passera rien, comme je te disais, j'ai bossé dans une boîte de production. Mais au début, comme j'étais à l'époque, j'avais une carrière de plongeur.
Je risquais pas grand-chose.
Bah, je me disais, comment ils vont me prendre? Ils me disent, c'est quoi sur ton CV? Bah, je fais la plonge au restaurant. C'est sûr qu'ils allaient pas me prendre. Je me disais, qu'est-ce que j'ai? Bah, je sais prendre l'accent français. Bah, je vais dire que j'ai bossé en France. Il m'a dit, alors c'est quoi ton expérience? Je dis, bah, je suis allé au culot, j'ai raconté une connerie, j'ai dit que j'avais travaillé pour Luc Besson.
Ah ouais, pas mal.
j'ai dit, maintenant je m'installe au Québec. Et je me suis dit, mais ça c'était vraiment au culot, je me suis dit, je crois pas qu'il va appeler Luc Besson, quoi. Je veux dire, c'était une toute petite boîte de production.
Ouais, c'est ça. Il faut être malin de comment tu le fais, parce que c'est...
Ouais, ouais, ouais.
Si tu fais ça avec le pote de Luc Besson et qui...
Exactement, je me suis dit, allez, putain, j'espère que c'est pas son pote. Mais comme lui, il se disait, ah non, je vais quand même pas déranger Monsieur Besson.
On va tester
à Paris, et voilà. Puis finalement, ça
c'est
marché,
quoi, le risque,
quoi,
qu'il prendrait? C'était faire juste une audition? C'était quoi le risque?
Non, moi c'était pas une audition, c'était pour être producteur de clips. Ah ouais, mais j'y connaissais absolument rien à la production, quoi. De toute façon, j'ai toujours appris, je crois, comme ça, en connaissant absolument rien, en usurpant un peu. Un des premiers travaux que j'ai eu, je donnais des cours de guitare, mais je savais pas jouer de guitare. Comment faire pour donner des cours de guitare quand tu sais pas jouer de guitare? Faut toujours avoir un coup d'avance. C'est-à-dire que j'ai investi dans un manuel.
Tu fais la formation en même temps, ouais.
Tu as la formation
en
même
temps. Tu fais faire le cours de que tu viens de finir.
Exactement. Exactement. J'avais un cours d'avance, quoi. Sur mon
tu
élève.
Dis, je m'en souviens quand j'en étais à ce niveau-là. Exactement. J'avais telle difficulté.
Voilà. Exactement. Comme ça, les choses sont encore frais dans ta tête.
Après, c'est dit, putain, il a vraiment de l'empathie. Il comprend vraiment ce que je vis, quoi.
Voilà. Du coup, j'ai eu une formation. J'étais payé pour avoir une formation de guitare, quoi.
Non, en plus, ce truc-là marche sur plein de sujets en soi. Et c'est un truc, des fois, je vois des gens qui viennent me voir et qui me disent « Mais moi, je démarre, je peux pas être crédible. » Et en fait, souvent, je leur dis « Mais ce que tu réalises pas, c'est que certes, le toi dans 10 ans, il aura une expertise et une crédibilité et une expérience que t'as pas aujourd'hui. Mais le toi d'aujourd'hui, il a quelque chose que le toi dans 10 ans n'aura plus, qui est de vraiment comprendre ce que ça fait de démarrer. »
Ouais, ouais.
Et moi, je le vois, par exemple, le mois de 21 ans, j'avais des anecdotes sur la timidité ou faire des trucs, et j'arrivais à les raconter forcément avec beaucoup de véracité, parce que j'étais en train de les vivre. Ouais. Et donc, quelque part, l'ancien moi, il était meilleur sur au moins le plan de connecter avec des gens qui étaient dans les mêmes difficultés que moi. C'est, pour moi, c'est une réalisation de réaliser que parfois, être débutant dans quelque chose, c'est un avantage pour pouvoir apporter de la valeur à quelqu'un qui débute aussi.
Oui, exactement. Ouais, ouais, ouais. Pour transmettre, quoi. Pour transmettre. Et puis, puis je sais pas, au début, en même temps, il y a une énergie, il y a une naïveté. Parfois, quand on voit le chemin parcouru, je pense à un ami qui a eu un projet de film, il a mis finalement 10 ans à le réaliser. Le jour de la projection, il disait, mais si j'avais su l'énergie que ça me prendrait, et au départ, le premier jour, il dit, jamais je l'aurais fait. Jamais je l'aurais fait. Si on m'avait dit, ah non, mais ça va prendre 10 ans, machin, il y aura ça comme difficulté, t'auras pas ton financement, après ton acteur va te lâcher, après si finalement il y aura un match de foot le jour de la sortie, donc personne va le voir ton film. Il dit, jamais je l'aurais fait. Mais finalement, c'est fabuleux que cette chose existe.
C'est drôle parce que je vais peut-être dire une connerie, mais je crois que c'est ça. Je crois que je lisais sur... c'est Spielberg qui a fait Les Dents de la Mer, hein. Et apparemment, le tournage des Dents de la Mer, ça a été une horrible, c'était une catastrophe, parce qu'en fait, ils ont essayé de construire des requins, mais sauf que ça s'est tout vautré. Ils ont filmé, en fait, Spielberg, il s'est dit, ça marche pas, c'est moche, c'est nul. Et je pense qu'effectivement, si au moment de démarrer le projet Les Dents de la Mer, on lui montre une photo, une vidéo du milieu du tournage où c'est la galère, je pense qu'il s'est dit, non, Dents de la Mer, j'y vais pas. Mais au final, c'est dans cette galère qu'ils ont changé leur technique de tournage et ils ont sorti un film qui est légendaire.
Et justement, sur Les Dents de la Mer, si on avait dit à Spielberg, je crois, alors écoute, genre j'imagine, je sais pas, le directeur artistique ou celui qui s'occupe, parce que c'est quand même le rôle, c'est quand même un requin, quoi. Et écoute, j'ai un super requin pour toi, et il lui amène un petit aileron, quoi. Un petit aileron. Il dit, c'est dément, quoi, le truc. Il lui aurait ri au nez, c'est sûr, quoi. Alors que, au final,
c'est ça qui crée la tension.
C'est ça qui est génial, c'est que le requin, on l'imagine, il existe en fait dans la tête des gens.
Exactement.
Et ça fait, c'est ça qui est terrifiant, c'est que la peur, c'est
ce que t'imagines.
C'est ce que t'imagines. Le réel est beaucoup moins effrayant que l'imagination, quoi.
Et finalement, c'est énorme parce que c'est parce qu'ils ont foiré les essais de requins qui se sont dit, on va faire la version 20-80. Tout à l'heure, on parlait de un peu ce côté des fois, l'anxiété qu'on peut ressentir avant un rôle ou de monter sur scène, par exemple. Moi, si je m'imagine être acteur et il y a toute une équipe de tournage, il y a un gros budget, il faut aller vite de ce que je comprends dans le cinéma, tu vois, pas passer des fois trop de temps à refaire une scène. Enfin, quand je m'imagine faire vivre ça, ça serait hyper stressant pour moi. C'est quoi, avec l'expérience, les choses qui t'aident le plus à rentrer dans le rôle et du coup à être performant le jour du tournage, pour toi en tout cas?
Ouais. Moi, je pense que ça joue beaucoup dans la préparation. Je sais pas, il y a 10 000 manières d'aborder un rôle, de se préparer pour un rôle. Parfois c'est par le corps, par la transformation du corps. Parfois il faut maigrir pour un rôle, grossir, prendre du muscle, par le costume, trouver, se sentir totalement crédible, quoi, dans le rôle que t'as joué. Parfois c'est l'apprentissage c'est de toute façon l'apprentissage du texte. Mais je veux dire, il y a multitude de difficultés. Mais à partir du moment où t'arrives solide, quoi, solide sur le plateau, confiant, et tu te dis, il peut rien m'arriver en fait. Et puis il faut se
et
dire,
tu stresses quand même, ou
il y a une partie, en fait c'est stressant, bien sûr que c'est stressant,
ça commence,
mais c'est pour ça
la
je pense
veille,
qu'il faut se dire,
ou le jour même, c'est pas une des scènes les plus stressantes, si on essaye de voir un exemple, une des scènes les plus stressantes pour toi?
Je sais pas, il y en a plein. Là par exemple, sur De Gaulle d'Antonin Baudry, où je joue le général Leclerc, et de faire un discours devant 250 personnes, un discours historique où tu joues quelqu'un qui a vécu.
Il y a 250 figurants devant toi là.
Il y a 250 figurants, c'est un grand discours, donc tu te dis
c'est pas juste le dire, c'est l'émotion qui...
Bien sûr, voilà, c'est que tu dis, faut qu'ils y croient en fait, faut qu'ils y croient, faut quand ils m'écoutent, faut que ça marche, quoi. Et puis il y a les attentes d'un réalisateur, il y a les attentes d'une équipe de tournage. T'as peur de décevoir, t'as peur d'être couillon, quoi, tout simplement. T'as peur que tout le monde sait rien faire.
Ouais, bon, pas ouf, quoi.
Waouh, ah ouais, putain, pas ouf, quoi.
Surtout quand c'est une scène importante d'un film, c'est dur, quoi.
Bah, évidemment, mais même, peu importe, quoi. Oui. Peu importe la scène, même sur une petite scène, en fait, il y a toujours ce truc où tout le monde attend quelque chose de toi et que tu sois bien détendu à fond dans la scène, et c'est pas toujours évident, quoi. C'est pas évident parce que en tant qu'acteur, dès que tu te mets à réfléchir, à penser, à être dans ta tête, c'est mort, en fait. Tu peux plus jouer. Faut être totalement dans le moment présent. Et cet état, finalement, d'être dans le moment présent, ça demande un lâcher prise. C'est un état presque d'hypnose, quoi, finalement, presque de
transe, ou
de transe, et d'être totalement dans l'écoute. Mais je pense que ça passe aussi par l'écoute de l'autre, par l'écoute de son environnement.
Mais si je me projette et que, entre guillemets, j'étais à une troisième personne, je peux te suivre de la veille jusqu'au tournage, tu es dans ta bulle, tu écoutes de la musique, tu fais de la respiration, tu... Parce que par exemple, pour revenir dans le moment présent, tu vois, est-ce que tu as des petites techniques qui t'aident? Est-ce que tu te parles? Est-ce que tu as des images? Est-ce que tu as des rituels comme un sportif? Qu'est-ce que je vais voir, en fait, si je te suis de la veille de cette scène jusqu'à la scène, et qu'on avance moment par moment, il se passe quoi, en fait?
Alors, normalement, je suis quand même la veille, je suis déjà prêt.
Oui, donc tu t'es déjà super entraîné.
Je suis déjà prêt. Je me suis dit, voilà, mon texte, je le connais. Je me dis, la scène, elle peut être jouée de telle manière, de telle manière, de telle manière. J'imagine à peu près, je ne sais pas, 10, 15 options de jouer la scène pour rester souple, pour ne pas arriver avec...
C'est une seule option, le réalisateur.
Une seule option, il me dit, ah non, finalement, il fait, ah non, c'est pas ça du tout. Et là, panique. Donc non. Donc,
ça c'est super intéressant.
Ouais, donc je me dis vraiment, j'essaie d'anticiper.
Donc c'est des intentions qui vont être différentes.
Il y a 50 000 manières, en fait, de jouer une scène. On se rend pas compte quand on voit un film. On dit, ah, il est juste, il est comme s'il y avait qu'une manière, mais en
fait. Mais tu peux t'énerver, tu peux parler lentement, tu peux.
Tu peux jouer sur tellement de choses, sur le rythme, mais c'est pas seulement l'émotion. Il y a une manière de regarder, une manière de
marcher,
de se tenir. Il y a le comportement humain, c'est tellement large. Tu demandes de dire une réplique, une phrase par 50 personnes différentes. Ouais, on va bien se rendre compte qu'il y a 50 manières
de la dire.
De la dire, quoi, une phrase, alors qu'ils font le même geste et la même phrase.
Et ces variations-là, tu les testes devant, t'as des amis qui te donnent du feedback?
Non, on y pense, j'ai pas forcément besoin de les...
Pas besoin de petit feedback.
De les faire, non.
C'est donc la veille de ce jour-là,
et la veille de
personne ne t'a encore vu?
Non, après, le truc, c'est que quand... On tourne un film, voilà, on tourne tous les jours, quoi. Mais moi, j'essaie, par exemple, de me préparer toujours 15 jours avant. Si j'ai une scène à tourner, bah, 15 jours avant, je la connais. Pour pouvoir aussi, j'aime bien avant les jours qui précèdent, justement, ne plus y penser. Ne plus y penser. Pour essayer de réduire l'importance.
Donc tu te prépares plus.
Je me prépare plus.
Tu fais autre chose.
J'y touche plus. Je fais vraiment autre chose. Pour retrouver aussi une fraîcheur, finalement, au moment... où je dois jouer. Et de me dire, c'est une manière de me faire confiance aussi. De me dire...
c'est bon, je la connais. Ça va
je la connais, en fait. Je la sais. J'ai pas besoin de dire, putain, c'est quoi encore là? Qu'est-ce que je dis après? Qu'est-ce qu'il dit
Ça, c'est un truc que t'as appris dans la douleur, ce truc-là, ou pas?
Ah, alors... ça arrive à presque tous les acteurs. Hein. Mais il s'est passé un jour, un film sur lequel je connaissais mal mon texte. Je connaissais mal mon texte. Et puis en plus, il y avait eu un pot la veille. Et du coup, on avait bu quelques verres. Jusqu'à 2h du matin, le lendemain, j'avais quand même une grande scène avec beaucoup de textes. Et la veille, je me dis, putain, je connais mal. Machin, et je suis jusqu'à 3h30 du matin dans ma chambre d'hôtel en train d'apprendre mon texte. Et le lendemain, crevé, un peu gueule de bois, parce qu'on avait un peu picolé la veille, j'arrive, et là, action, et je commence la scène, et là, bah, blanc, machin. Ok, c'est pas grave, coupé, on reprend, tac. Et là, pareil, et plus ça avance, plus on fait de prise, plus je me mets à me tendre, à paniquer, quoi, tout simplement. Et c'est comme si mon cerveau était plus irrigué, c'était... et la réalisation, parce que c'était une réalisatrice, commençait à C'était horrible parce qu'elle commençait à s'énerver, mais sur les techniciens qui étaient autour. Elle criait sur tout le monde, sauf moi, quoi.
Mais est-ce qu'elle voulait te protéger, entre guillemets, en se disant il faut pas qu'il.
Mais parce que ça commençait à la saouler, elle commençait à s'énerver, sauf qu'elle disait bah non, j'ai pas crié sur Neil, ça va le tendre encore plus. Parce que déjà,
il faut qu'elle évacue, quoi.
Il est déjà comme ça, donc il faut évacuer. Donc c'est tout le monde qui prenait pour moi.
Ce qui te stressait encore plus.
Ce qui était horrible parce que du coup, je culpabilisais. Je disais pardon, c'est moi, c'est ma faute, je suis désolé.
Waouh.
Et elle me dit écoute, Neil, tu vas. On va s'arrêter. Tu vas prendre 10 minutes, tu vas aller fumer une cigarette et tu vas apprendre ton texte. Hein, parce que là, on va pas y arriver. Hein. Et je fais oui, bien sûr, ok, pardon. Et je vais apprendre. Et je pars et je vais apprendre mon texte. Mais ton cerveau, il peut pas, quoi. Oui, t'es tellement en état de panique. Je reviens et elle me dit c'est bon, tu l'as ton texte. Je fais je crois. Action, pire qu'avant.
C'est horrible.
Et je me suis dit, c'est la dernière fois de ma vie que ça m'arrive. Et surtout aussi, il y a une autre chose qui m'a beaucoup aidé, c'est que parfois il y a beaucoup de jeunes comédiens qui veulent être extraordinaires sur scène, qui veulent.
Ils veulent être au-dessus en fait.
Ils veulent au-dessus, ils veulent montrer à quel point.
Ils sont légendaires.
Ils sont légendaires, oui, à quel point leurs sous-émotions sont fortes et ça, c'est terrible, quoi, je veux dire.
Ça crée l'effet opposé.
Ah bah, ça crée l'effet opposé.
Ça te rend moins performant ?
Bah ouais, je pense qu'à partir du moment où t'es prêt, en fait, il faut essayer d'être. Il faut essayer d'être moyen. Comme un sportif, en fait. Quelqu'un qui s'entraîne au sprint. Je pense que vraiment, les records sont faits dans les entraînements, dans les répétitions. Parce que sinon, tu te mets tellement de pression que ça te bloque. Je pense que pour être dans le moment présent, pour être vraiment écouter l'autre, écouter son environnement, il faut pouvoir être relâché, quoi. Il faut pouvoir être détendu. Pour être détendu, il faut se dire, il faut diminuer les enjeux. Il faut diminuer les enjeux et de se dire, écoute...
Je peux être moyen.
Je peux être moyen, quoi. Je peux être moyen. Et c'est pas d'être plus intelligent. C'est comme en interview, je trouve que ceux qui veulent être absolument pas tellement drôle, tellement intelligent, genre, tellement rapide, c'est le meilleur moyen de ne pas l'être, finalement.
Pas l'être, de paraître pas humain, d'être tendu.
Ouais, d'être tendu, d'essayer de copier quelqu'un d'autre. Finalement, ça manque terriblement d'authenticité, quoi. Je trouve que c'est le moyen d'être le plus proche de soi, c'est d'essayer d'être tout simplement moyen. Et
c'est intéressant parce que j'ai interviewé l'entraîneur du PSG, Denis Troche, en tout cas qui était entraîneur, et il me disait un match de finale Coupe de France, par exemple, je veux pas que mes sportifs ils innovent. Je veux pas, en gros, qu'ils aillent chercher ce qu'ils ont jamais trouvé.
Ouais, ouais.
Je veux qu'ils fassent ce qu'ils font toujours.
Ouais, ouais. Exactement.
Cherche pas à être meilleur à la Coupe du Monde. Ouais. Fais ce que tu fais à l'entraînement.
Ah, mais totalement. Moi, je me rappelle un jour au théâtre, justement, on répétait une pièce et 2 mois de répétition. Ça se passait super bien. Et c'était ma première pièce de théâtre. Et le jour de la première, je pars totalement en couille. Je pars totalement en couille. C'est-à-dire, le metteur en scène, il fait mais.
T'as déjà fait ça à l'entraînement ? Pourquoi t'as innové aujourd'hui, quoi ?
Mais ouais !
C'était très bien.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe ? C'était super. Et je sais pas, moi, dans ma tête de jeune acteur, je me disais ok, c'est bon, là, je suis chaud. Et là, je vais tout faire péter, quoi. Et c'est le meilleur moyen d'être nul. Faut faire attention aux premières et aux dernières, souvent au théâtre.
Oui, c'est les deux avec plus d'enjeux, en fait.
C'est les deux avec le plus d'enjeux. Ouais, et puis un metteur en scène qui nous avait dit ça, il nous avait dit, le jour de la première, il nous a dit, jouez pas, c'est une répétition. Vraiment, jouez comme une répétition. Et le jour de la dernière, il nous avait dit, pensez comme si on allait rejouer demain, quoi.
J'adore, tu vois, c'est intéressant parce que des fois, quand je tourne des vidéos, si je me mets trop la pression en mode j'ai qu'une prise, celle-ci elle doit être vraiment top et je dois être bon, etc. machin. Bah, en fait, une fois sur deux, j'arrive pas à rentrer dedans.
Ah ouais.
Et l'astuce qui marche trop bien pour moi, c'est de me dire en fait, la première prise, c'est juste pour m'entraîner.
Ouais.
Et en fait, déjà, je suis programmé à je vais en faire deux. Et en fait, paradoxalement, en essayant de me dire je vais faire deux prises, bah, une fois sur deux, la première est bonne.
Exactement.
Et parce qu'il n'y a pas d'enjeu, je suis décontracté, j'y vais.
Faut diminuer les enjeux, mais je pense que ça vaut pour tout, quoi. C'est comme, je sais pas, tu rencontres quelqu'un qui te plaît, bah tout d'un coup il y a tellement d'enjeux, tu dis mais comment j'agis, c'est de l'eau, mais
c'est de dire des trucs intelligents qui sont bêtes.
Ouais, exactement. Puis tu sais, à un moment, je veux dire, moi ça m'est arrivé, tu sais plus comment boire un verre d'eau, quoi. Et tu dis comment on boit encore un verre d'eau, le. Tu dis j'ai l'air super chelou en buvant mon verre d'eau, quoi.
Ça c'est trop drôle, hein. Quand je sais pas moi ça m'est, j'avais. Il y a, je sais pas, 6-7 ans, je suis dans une salle de sport et je rencontre un chanteur qui est très connu en France. Et en fait, je m'observais, je me disais, David, tu n'es pas du tout normal. Tu t'interagis bizarrement. Ah oui, je crois qu'il avait dit un truc qui était banal. Et j'avais une réaction.
Genre, waouh! Wow. Un grand esprit.
Et ouais. Je lui ai dit, mais pourquoi tu réagis comme ça? T'as pas besoin, en fait.
Mais c'est... Non, tu veux tellement montrer. Et ouais, tu passes pour un mec qui. Bon, pour un gros drogué, quoi. Qu'est-ce qu'il a. Non, mais c'est. Et ouais, mais c'est comme ça pour. C'est comme ça dans la vie, quoi. C'est comme ça dans la vie. Mais c'est vrai que ça fait peur, quoi. Quand ça t'arrive, ça fait peur. Tu dis, mais putain, mais pourquoi la chose la plus simple du monde.
Je sais plus la faire.
Je sais plus la faire, quoi. Et en fait, je pense que le corps, que le cerveau. Ont leur propre autonomie, il faut leur faire confiance, quoi.
Et tu te le dis, cette phrase, c'est ok d'être moyen, le jour de notre tournage?
Ouais. Ouais. Je me dis juste, soit dans le moment, fais confiance. Fais confiance, en fait, à essayer de pas contrôler les choses. De pas contrôler les choses. Je les ai assez contrôlées en répétition, dans ma tête avant, assez imaginées, pour essayer de, au moment où je joue, de justement...
Je lâche
et les choses vont se produire, vont surgir au moment où ça doit surgir. Et si ça se passe différemment, de me dire en fait, il n'y a pas une façon, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas une bonne réponse, il n'y a pas une manière de jouer la scène. Et c'est la meilleure manière de se surprendre soi, quoi. Moi, c'est ça que j'adore, c'est quand je joue une scène, mais...
Et que tu te surprends toi, que tu découvres un truc.
Et là, ça se termine et je me dis, waouh, il s'est vraiment passé un truc. Mais quand on dit s'est passé vraiment un truc, c'est comme qu'on rencontre dans une rencontre humaine, quoi. Qu'on rencontre une personne et c'était pas prévu comme ça. Et on se dit, ouais, je m'attendais. En fait, ouais, je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à ce que cette discussion aille dans ce sens-là. Et c'est là que les belles choses un peu savoureuses peuvent se produire, quoi. Je sais pas, comme là, j'adore la discussion qu'on a, mais hier, tu vois, par exemple, on m'avait envoyé, j'ai reçu un mail avec de quoi t'aimerais parler pendant l'interview, et moi je dis, mais j'en sais rien en fait, de quoi j'ai envie de parler, j'arrive pas avec un message particulier, j'ai rien à vendre, mais du coup, tu vois, je pense que si je m'étais dit, si on avait forcément formaté, tu vois, l'émission, ça aurait été. Peut-être plus ennuyeux que
la conversation naturelle.
Que la conversation totalement naturelle. Je me dis, forcément, je me suis dit, on trouvera quoi, des choses, des liens.
Non, franchement, ouais. J'adore ce que tu as dit. En plus, moi, ça se connecte à plein de choses de psychologie. Il y a un bouquin qui s'appelle The Inner Game of Tennis. C'est un gars qui s'est passionné sur comment tu prends quelqu'un d'amateur en tennis et tu le fais devenir hyper bon. Et il parle justement de. Les profs de tennis qui te disent ah non pas comme ça, contracte plus le biceps, mets plus ta raquette comme ça. Et en fait ils disent c'est pas possible parce qu'en fait faire un mouvement au tennis ça demande je sais pas combien de muscles.
Mais ouais.
Et donc t'es sûr de le foirer. Et en fait il dit
concentrer sur 2-3 trucs maximum.
Exactement. Et donc en fait il fait l'inverse, c'est-à-dire que il va leur dire tiens regarde-moi, il fait le geste et foire. Vas-y essaye de la mettre à côté. Et il essaie que des exercices inversés. Ou du coup, la personne, vu qu'il n'y a pas la contrainte, il faut faire absolument comme
j'adore ça. J'adore
ça. Et c'est de faire confiance à l'inconscient.
Là, sur la série d'Argent et de Sang avec Xavier Giannoli, c'est exactement sa méthode. C'est-à-dire qu'il est un réalisateur très, très, très exigeant. Mais il nous disait, son indication, c'était « Trompez-vous, foirez !» C'est quand même chelou, quoi. Mais il dit « Non !» Juste parce que... Faut pas avoir peur de foirer. Un acteur justement qui qui veut tellement plaire, être bon tout de suite.
Il est rigide.
Et bah, un, il est rigide. Deux, il devient conventionnel en fait. Il va jouer safe. Il va jouer dans sa zone de confort.
Ouais, alors que la magie, elle est en dehors, elle est dans le risque en fait.
Elle est dans le risque. Elle est dans le risque. Elle est dans... Et surtout de se rendre compte que en prenant des risques, si on se plante, qu'est-ce qui se passe ?
Pas grand chose, ouais.
Pas grand chose.
Ouais.
Pas grand chose. On la refait, on en fait une autre. Et puis.
T'as une anecdote comme ça pour arriver à me projeter d'un tournage où c'est sorti du cadre, que ça soit dans le rire, dans le dramatique, vous êtes sorti du texte. T'as une anecdote comme ça qui est mémorable, qui t'a marqué ?
Je jouais Roméo et Juliette. Et on a joué 80 fois 80 représentations et il y a une scène sur un monologue, un moment où Roméo se fait bannir.
Toi tu joues Roméo?
Ouais, je jouais Roméo et il se faisait bannir de Vérone et il revient et il est en larmes, il parle au prêtre. Mais moi c'était ma première pièce professionnelle et en plus c'était au théâtre dans le sens que j'avais pas vraiment besoin de pleurer quoi, je veux dire on n'a pas besoin, on voit pas les larmes, on s'en fout complètement quoi. Mais moi acteur débutant je me disais non il faut que je pleure le truc et puis en plus j'y arrivais plutôt bien quoi, les larmes venaient assez facilement et un jour je m'étais dit j'étais fatigué le truc, et puis un acteur, moi je connaissais pas du tout ce truc, qui me dit ah non mais Nice, moi j'ai trouvé une super technique pour pour les pleurs, tu te mets un peu de menthol ici là tac et tu te mets genre il dit t'en mets un peu dans ta poche juste avant de monter sur scène, hop, clac clac sous les yeux et là tu verras c'est génial quoi. Super quoi. Ça fait déjà une heure qu'on est sur scène, qu'on joue, et là j'arrive, hop, et là j'ai ma petite fiole que j'ai achetée à la pharmacie où j'ai demandé des huiles essentielles de menthe, et je m'en fous dans le noir, genre plein la main, et là, avant de rentrer sur scène, je suis là, clac, 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 comme ça, et là je rentre sur scène, et là, mes yeux, mais explosent. Et je suis là comme ça sur scène et je dois me taper 5 minutes de monologue du Shakespeare machin avec les yeux, dans ma tête je me dis juste je suis en train de perdre mes yeux, je suis en train de devenir aveugle machin le truc. Et là je vois le prêtre, l'acteur qui joue le prêtre qui me regarde, il fait genre waouh qu'est-ce qui va pas quoi, il sent qu'il y a un truc qui va pas, je suis rouge, j'ai les veines qui sortent et je suis comme ça. Et finalement, j'ai fait toute la scène comme ça, de dos au public. Et du coup, c'était ouais, une bonne leçon que...
Que pas la menthole.
Pas la menthole, faut se faire confiance, quoi. Allez. Pas écouter les conseils des autres.
Allez, ouf. Tiens, tu peux piocher 3 cartes.
Ouais.
Et tu les retourneras une par une après. Et donc, tu peux retourner une carte, tu lis la question et...
Alors, quel est votre souvenir d'enfance préféré ? J'avais ma grand-mère que j'aimais vraiment, vraiment beaucoup. Et c'est peut-être des souvenirs de vacances avec elle, avec mes frères, mes 4 frères, mes parents. Elle avait un petit appartement à Mandelieu-la-Napoule. Et je sais pas, à chaque fois que c'était un endroit qui était pas particulièrement beau, mais je sais pas, quand je repense à mon enfance, c'est souvent ce moment-là quoi
qui revient.
Ouais, qui revient. Ouais, ouais. De quoi êtes-vous le plus fier? Justement, on en parle au début, mais pour quelqu'un qui était très anxieux à l'origine comme moi, d'avoir dépassé ça, pouvoir faire partie d'un collectif, de créer quelque chose où tout le monde participe à un projet commun, ça j'ai trouvé ça vraiment vraiment formidable quoi. Mais j'aurais jamais pu imaginer être comédien avec mon tempérament quoi. En plus j'ai une école à Montréal où vraiment le théâtre, tout le monde s'en foutait quoi, tout le monde voulait faire du football américain et moi je faisais du football américain, j'étais dans l'équipe. Déjà en plus, ouais, quand je me suis dit je vais m'inscrire dans la troupe de théâtre, Je me rappelle, le mec, en fait, je lui dis, je vais m'inscrire dans la troupe de théâtre, je crois. Et il se retourne, il me regarde, il fait, TPD? Je dis, ah ouais, putain, waouh, c'est vraiment...
C'est vraiment une association.
C'est vraiment une association dingue, quoi. C'était pas une vraie question, quoi. C'était plutôt...
Affirmatif.
Déjà, c'était un peu une insulte un peu homophobe. Et du coup, ouais, je me suis dit, c'est pas gagné, quoi. Les choses sont pas gagnées. Et ouais, je suis très fier quand même d'avoir réussi à dépasser ça, quoi. Dépasser. Moi, je croyais pas en moi. Je croyais pas en moi. Les autres autour croyaient pas en moi. Et d'avoir. Ouais, je me dis quand même qu'il y a eu un petit parcours, quoi, qui a été fait, c'est sûr.
Non, son histoire, elle est dingue. Et j'arrive à imaginer vraiment quelqu'un qui nous écoute. Et pour moi, une vraie source d'inspiration dans à quel point c'est possible de transformer sa vie et qu'on n'a aucune idée de ce qu'on peut devenir, en fait.
Et ça c'est sûr. Ça, je crois vraiment en ça. On n'a aucune idée de ce qu'on va devenir. De ce qu'on va devenir, on n'a aucune idée.
Ça ferait quoi au jeune toi, à Québec, qui n'est pas à l'aise dans les interactions avec les autres, de voir ton parcours?
Je ne sais pas si ça le ferait... Ça lui donnerait de l'espoir, en tout cas, de l'espoir, de dire que ça ne sera pas toute ta vie comme ça, quoi.
Il y a une fin à ça.
Il y a une fin à ça, ouais. Il y a une fin et voilà, tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Tu vas pas rester bloqué là-dedans toute ta vie. Ça, c'est très difficile à imaginer, à percevoir quand t'as 12, 13, 15 ou même 16 ans, quoi. T'as l'impression d'être totalement parfois enfermé
Ouais, et que ça va durer toute ta vie.
Ouais, que ça va durer toute ta vie, que tu vas devenir fou, ouais. Si vous aviez une baguette magique, que changeriez-vous dans le monde? Oh. Il y a tellement de choses à changer, mais là, de manière la plus urgente, je pense que c'est évidemment qu'on se rende compte, en fait, que les gens se rendent compte qu'on est tous humains, qu'on est des hommes et qu'on se ressemble, en fait. Et que les gens, peu importe leur couleur de peau, leur religion... ils aiment de la même manière, ils ont mal aux dents de la même manière, ils... ouais.
Non, c'est clair, c'est intéressant parce que souvent, dans les, quand tu regardes l'histoire et les dictatures, ce que font les dictateurs pour faire que le peuple déteste un autre peuple, c'est souvent d'utiliser tout un enchant lexical autour des animaux. C'est-à-dire, tu regardes... comment, par exemple, les nazis appelaient les juifs, je me souviens plus le mot, mais c'est beaucoup des mots associés aux animaux. Parce qu'en fait, tu déshumanises l'autre peuple, ce qui fait que ça devient plus facile pour la personne de lui en vouloir et de le tuer. À l'inverse, j'avais adoré cette image mentale qui est que si on te montrait, un peu comme un personnage de film finalement, tu sais, j'adore dans Harry Potter le... T'en veux un peu à Rogue tout le long, le professeur, et tu découvres son histoire, et tu découvres son enfance, et d'un coup, t'as une forme d'empathie pour lui, plus d'amour pour lui. Si tu voyais comment la personne que tu détestes, tu la voyais comment elle est avec ses enfants, ou comment elle est dans d'autres contextes, et tu vois là sa part humaine, ben ça devient beaucoup plus difficile de lui en vouloir.
Vraiment, c'est pour ça que je pense qu'il y a autant de haine, par exemple, sur les réseaux sociaux, parce que on rend l'humanité presque en deux dimensions. C'est-à-dire, pour pouvoir haïr quelqu'un, il faut le caricaturer. Il faut en faire une représentation très grossière, pour se dire, on n'a rien à voir, moi j'ai une profondeur, moi j'ai une humanité, que l'autre... que la personne en face, dans l'autre camp, n'a pas. Il est purement méchant, alors que
l'humain, il est complexe.
Ça ne fait que de paradoxes.
Exactement. Des petites questions rapides. Si tu pouvais inviter une personne sans limite au restaurant, vivante, décédée, t'inviterais qui au restaurant?
Je pense avec John Cassavetes, on peut bien se marrer.
Ouais, tu ferais quoi comme... tu lui parlais de quoi?
Oh, je pense de tout, quoi. Avec lui, je pense qu'on pourrait parler de tout, quoi. Mais on rigolerait bien, ouais.
Qu'est-ce que t'as qui te rend un peu bizarre, qui pourrait être perçu comme bizarre? Qu'est-ce que tu fais comme habitude, comme comportement
Alors, je pense que dès qu'on regarde vraiment quelque chose, tout le monde est hyper chelou, quoi. Tout le monde est hyper bizarre. Par exemple, au restaurant, je commande souvent par... tout par trois, quoi. C'est-à-dire, je commande trois boissons en même temps. Je commande un coca, zéro, un verre de vin, et je prends vraiment trois. Je prends entrée, plat, dessert, toujours en même temps. Ça, les serveurs et serveuses à chaque fois me regardent comme si j'étais vraiment
très chelou.
Très chelou. Et je demande, ouais, c'est ça, coca zéro, vin, un verre de rouge et un cappuccino.
Et après t'arrêtes et tu fais le round suivant de 3, tu fais des rounds de 3 quoi.
Des rounds de 3, ouais, mais tout en même temps.
Ouais, c'est pas mal.
Et je suis assez, ouais, je suis assez monomaniaque quoi, donc j'ai des espèces d'obsessions comme ça.
De quoi, dans le sens de te focaliser sur une thématique?
Voilà, sur une thématique, ouais.
Ça, d'ailleurs, ça en tant qu'acteur, est-ce que t'es du genre, j'avais vu une scène sur Oppenheimer, l'acteur, j'ai perdu son nom.
Cillian Murphy, je
crois. Ouais. Et en fait, c'était d'autres acteurs qui disaient que pendant tout le tournage, quand il lui envoyait un SMS, genre tiens, on sort ce soir,
ouais,
il restait dans son personnage. En fait, il était genre pas 24 heures sur 24 peut-être, mais il était beaucoup dans son personnage tout au long du tournage. C'est vrai que t'es comme ça un petit peu, toi.
Oh, écoute,
genre quand tu joues
ça,
un mec un peu agressif, t'es un peu agressif le soir.
Non, heureusement quoi. Heureusement.
Il y a des acteurs, c'est ça?
Bah, je sais que Daniel Day-Lewis, lui, il reste tout le temps dans son personnage. Quand il jouait le film avec DiCaprio, là, de Scorsese, il mangeait à la cantine avec une hache. Il coupait son steak avec sa hache. Il fait non, mais je suis dans mon perso, mec. c'est l'acteur studio, c'est la méthode. Moi, je trouve ça. Quand je commençais, j'étais un peu comme ça. Je me disais, ouais, il faut tout le temps que je sois. J'étais tellement. J'avais tellement peur d'être déconcentré que par exemple je sortais avec une fille et j'étais hyper bien quoi avec elle, j'étais hyper amoureux, et un jour j'ai dit non mais là va falloir qu'on se quitte hein, parce que je tourne un film. Elle fait mais alors? Elle fait non mais faut que je sois dans mon perso, c'est un peu extrême quoi. Elle fait quoi, tu sacrifies 2 ans d'histoire
pour le rôle?
Je fais ouais. Genre, comme si j'étais en mission Et c'est une énorme connerie, quoi. Je pense que, justement, le fait de... la peur d'être déconcentré et tout ça, je pense que la vie, en fait, faut laisser passer la vie, quoi. Faut laisser la vie contrôler, traverser. Exactement.
Bah tiens, si ouais, pour terminer, s'il y avait un jeune qui nous écoute, qui a des challenges de timidité, d'introversion, de bec peut-être, t'aimerais lui dire quoi?
Bah, ce qu'on se disait tout à l'heure, quoi, de dire... ça sera pas, même si c'est dur à imaginer, que il y a des moyens de s'en sortir quoi, et que finalement plus tard ça en fera une force, je crois que ça en fera une force. C'est vraiment une vulnérabilité, l'anxiété qui permet de voir le monde aussi différemment quand on est jeune, et d'avoir une position qui peut devenir une force finalement plus tard.
Trop bien, ça te rend humain aussi,
ouais,
tes relations.
Ouais, absolument.
Stylé, franchement c'était ouf.
Bah merci, hein. Merci, j'adorais.
Vraiment, moi aussi j'adorais. Et tu m'inspires dans ce côté, je me suis entraîné, je me suis préparé, et je vais dans mon rôle, je cherche pas à être extraordinaire, je vais faire de mon mieux, je laisse la vie faire.
Je pense qu'il faut laisser, rester poreux à la vie. C'est un échange en fait, c'est un échange. Et toi, t'arrives, une fois qu'on est prêt, maintenant c'est d'être simplement dans le moment présent, quoi.